biologie naturelle, 23 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Peut-on dire que la perfection et l'appétibilité sont formellement différents, mais un dans la réalité bonne ? La perfection préciserait l'aspect métaphysique du bien comme modalité de l'acte, et l'appétibilité préciserait son aspect éthique en tant que capable de m'attirer. Oui, si vous voulez, hein, je vois bien. Appétibilité, perfection, c'est sûr que c'est pas commode du tout à préciser, hein. Il y a un aspect plus formel dans la perfection. Alors, sous ce point de vue-là, je comprends modalité de l'acte, parce que c'est une modalité, c'est un aspect plus formel. C'est du côté de l'acte, c'est évident. L'appétibilité fait appel, vous voyez, plus à l'autre, si j'ose dire. Une personne est qualifiée par la perfection. Une personne. L'appétibilité, c'est le regard vers l'autre. C'est par rapport à un autre qu'on est appétible, c'est pas par rapport à soi-même. Je me regarde, je suis appétible à moi-même. Tandis que je suis parfait à moi-même. Mon examen de conscience porte sur la perfection. Et non pas mon appétibilité. Je crois que vous n'avez jamais fait d'examen de conscience sur votre appétibilité. Attendez, vous avez fait un examen de conscience sur votre perfection. Vous voyez tous vos manques. La perfection, regarde au point de vue des manques, des privations. Toujours en opposant. Nous sommes ainsi faits que nous avons de la peine à saisir les choses dans leur structure. Alors dès que vous prenez l'opposé, vous voyez tout de suite. C'est le système quand on doit faire une dissertation. On prend tout de suite l'opposé. Perfection, qu'est-ce que c'est ? Ah, manque de perfection. Ah, très bien, ça va très bien. Alors, on va commencer à faire ces trucs. Pour toute dissertation, on peut toujours faire comme ça. Les contraires nous aident à comprendre. La guerre est le père de toutes choses. Hein ? C'est vrai au point de vue rhétorique, donc au point de vue développement rhétorique. C'est vrai au point de vue parlement. C'est la guerre et la perte de toute chose. On oppose et puis on passe au travers. Alors ça fait vraiment les deux opposés, privation et perfection. Et puis l'appétibilité. Quel est l'opposé de l'appétibilité ? Vous allez dire. Quel est l'opposé de l'appétibilité ? Par commode. Alors vous allez dire tout de suite non appétible. C'est non appétible. Et c'est vrai d'une certaine manière, c'est non appétible. Repoussant. Non, mais repoussant. Ça peut être comme ça, non appétible, ça peut être repoussant. Hideux. C'est toutes ces choses-là, c'est ce fait qu'on a peur, on tourne le dos. Tandis qu'appétible, on tourne la face vers. On est attiré, alors. Enfin, tournant vers tout de suite, on est attiré. Tandis qu'au contraire, on se tourne de l'autre côté. Alors on se voile la face pour l'appétible. C'est pas la privation, c'est très cru. Il y a donc c'est ça qui fait comprendre ce que c'est que l'appétibilité. C'est par rapport à un autre. Tandis que la perfection, c'est par rapport à moi-même. Je crois que c'est ça qui fait le mieux saisir. Parce que éthique, vous comprenez, c'est pas entièrement vrai. Puisque l'éthique est fondée sur l'appétibilité. L'éthique n'existe qu'au moment où il y a l'amour. Or, l'appétibilité est source d'amour. Et l'éthique n'existe qu'à ce moment-là. Donc, l'appétibilité, c'est encore métaphysique. C'est le fondement de l'éthique. C'est le fondement de l'éthique. C'est cette relation, c'est une relation d'appétibilité. Tandis que la perfection n'est pas une relation, c'est une qualité. Alors là, vous allez peut-être mieux comprendre. La perfection étant qualitative, je suis ennobli par la perfection. Est-ce que je suis ennobli par l'appétibilité? Non. L'appétibilité permet à un autre d'être attiré par moi. Donc c'est une relation. Alors nous allons voir tout de suite maintenant l'article 4, qui est un très bel article. Qui va compléter tout ce que nous avons dit jusque maintenant et qui va compléter ce point de vue-là. Le bien est-il cause finale? Le philosophe a dit, ce pourquoi quelque chose est, c'est la fin et c'est le bien de tout le reste. C'est dans les physiques. Id cuius causa est, est sicut finis et bonum aliorum. Donc, ce pourquoi quelque chose est, id cuius causa est. Ce pourquoi quelque chose est, on peut le dire, est comme la fin et le bien des autres. Alors, le bien, corps de l'article, le bien est ce que tout être désire, ce qui est appétible. Et puisque c'est cela qu'on appelle une fin, il est manifeste que le bien répond à l'idée de fin. À l'idée, c'est pas l'idée. Hein. Que bonum rationem finis importat. Donc, il est manifeste que le bien implique la raison de fin. Importat, je crois qu'il faut dire impliquer, inter la raison de fin, implique la raison de fin. Donc, la raison de fin, ça c'est très important pour voir à quel moment naît la finalité. Vous pourriez dire ça, ce serait plus facile à comprendre pour vous. Hein. À quel moment naît la finalité? La finalité naît à partir du bien. Le bien, c'est plus que la fin. C'est ce qui fonde toujours la causalité finale. S'il n'y avait pas de bien, il n'y aurait pas de causalité finale. Ah, vous voyez, ça c'est très très important pour voir comment la finalité a disparu de la philosophie. C'est le jour où on n'a plus parlé du bien. Le jour où on ne parle plus de bien, la causalité finale disparaît. Il n'y a plus de finalité du bien, il n'y a plus de finalité qui apparaît. Donc la finalité apparaît à partir du moment où on s'intéresse au bien. Or, le bien, on s'y intéresse en métaphysique, on s'y intéresse en éthique. Est-ce que c'est le même bien? Oui. C'est par le bien que je vois le lien entre la métaphysique et l'éthique. C'est par le bien.
On peut dire que le bien va être regardé en philosophie première. Et quand je regarde le bien en philosophie première, je regarde le bien comme mode de l'art. Et le bien est regardé dans l'éthique. Quand je regarde le bien en éthique, il devient fin, il devient le bonheur. Le bien vécu, c'est l'amour, c'est ce qui suscite en moi l'amour, un amour ultime, c'est-à-dire le bonheur. Je suis bien heureux dans la mesure où j'atteins ma fin. Et la fin est mon bien suprême.
Donc je suis bien heureux quand je vis de mon bien suprême. Quand je suis lié à mon bien suprême, je suis bien heureux. Et je peux me reposer. Et je ne me repose que quand je suis lié à mon bien suprême. Vous voyez la distinction qu'on va faire tout de suite en éthique, que nous allons voir, tu restes fin et moyen. Ça, c'est une distinction propre à l'éthique, fin et moyen. Ce n'est pas une distinction propre à la philosophie première. À la philosophie première, quelle est la distinction qu'on fait entre acte et puissance? La puissance est totalement ordonnée à l'acte. Et les moyens sont totalement ordonnés à l'acte. Ceci, c'est pour que vous compreniez bien les relations entre philosophie première et éthique. Donc, le bien est ce que tout être désire, et puisque c'est cela qu'on appelle une fin, il est manifeste que le bien répond, implique le point de vue de la fin. Néanmoins, cette notion de fin, mais la ratio boni, mais cependant, la ratio boni présuppose la raison de cause efficiente et la raison de cause formelle. Oui, c'est curieux, il a changé. Dans la traduction, il a mis cette notion de fin. Remarquez que ça revient au même. Mais saint Thomas dit, cependant, la ratio boni presupponit rationem causae efficientis et rationem causae formalis. Une petite modification de la traduction. Il faudrait se demander pourquoi. Car nous voyons que ce qui est premier pour la causalité est dernier dans les faits. Alors ça aussi, c'est un point de vue très très important à saisir. Ce sont des choses qui sont absolument capitales. Vous voyez, ça revient un peu au même que les deux ordres, l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Nous voyons en effet que ce qui est premier in causando est ultime in causato. Ce qui est premier in causando, c'est l'ordre de perfection. Ce qui est ultime in causato, c'est l'ordre génétique. C'est ultime, c'est dernier. Vous voyez, nous retrouvons donc cette distinction. Car nous voyons que ce qui est premier pour la causalité est dernier dans les faits. Par exemple, le feu échauffe le bois avant de lui communiquer sa nature de feu. Surtout quand c'est du bois vert, hein, ça ne brûle pas tout de suite. Il faut mettre longtemps le bois vert auprès du feu pour qu'il soit capable d'être igné, n'est-ce pas, qu'il devienne du bois brûlé et que le feu pénètre dans le bois. Ici donc, dans l'ordre de causalité, nous trouvons d'abord le bien qui est fin et qui met en œuvre la cause efficiente. Ensuite vient l'action de cette cause efficiente qui meut à la forme nouvelle. Et enfin vient la forme qui réalise l'effet. In causando enim primo invenitur bonum et finis, qui movet efficientem, secondo actio efficientis movetur ad formam, tertio advenit forma. C'est un miracle, ça. C'est très très intéressant comme analyse de ce que représente la causalité, l'ordre in causando. Dans l'ordre in causando, nous avons donc, je suis dans l'ordre de la causalité. Dans l'ordre in causando, nous avons primum, en premier lieu, le bien et la fin. En second lieu, nous avons le point de vue, donc le bonheur, qui meurt. La cause efficiente. La cause efficiente. Nous avons en second lieu l'action de l'efficience, Et en troisième lieu, nous avons la forme. Arrive la forme. Je remonte maintenant. Arrive la forme. C'est une analyse très intéressante au point de vue proprement de la causalité. Dans toute causalité, vous avez ces trois moments. La fin, l'efficience, la forme. Alors vous allez me dire, quatrième lieu, la matière. La forme est éduitur de la matière. La forme est déduite de la matière, provient de la matière. On n'en parle pas, parce que la matière est présupposée, mais elle ne fait pas directement, vous voyez, elle ne fait pas partie directement de cette causalité, surtout quand il s'agit de Dieu. Alors quand il s'agit de Dieu, je ne regarde pas la matière. Mais si je regardais tout simplement la causalité habituelle, on aurait le point de vue de la matière. La forme provient de la matière, elle est déduite de la matière. Donc ça, il faut bien comprendre. Le bien et la fin qui meut l'efficient, l'action de l'efficient va impliquer quoi, la forme, et l'efficient communique la forme. Il communique la forme sur la matière quand il s'agit d'une réalité matérielle et physique. Et enfin vient la forme. Dans les faits même, l'analyse devra donc révéler un ordre inverse. On trouvera d'abord la forme qui détermine l'être, une des e converso, donc lorsqu'il s'agit in causato, dans le causé, il faut d'abord que soit la forme par laquelle est l'ens. Alors ça, c'est une chose aussi très importante à bien saisir. Le point de vue de la forme structure l'être. Et donc l'ens est tout de suite présent, ens, ce qui est, est tout de suite présent par la forme. Dans l'ordre de l'effet, donc dans l'ordre du causé, l'analyse devra révéler un ordre inverse. On trouvera d'abord la forme qui détermine ce qui est. Il ne faut pas dire l'être, il faut dire ce qui est. Dans cette forme, on découvrira une vertu active. Donc dans la forme, on découvrira une virtus effectiva qui appartient à ce qui est en tant qu'il est achevé. Qu'il est parfait in esse, parce que chacun alors est parfait quand il peut faire un être semblable à lui. Et en troisième lieu, on découvrira la ratio boni par laquelle dans l'être est fondée la perfection. Oui, vous retrouvez toujours, hein, c'est ça qui m'intéresse ici et ce qui est intéressant ici, c'est de retrouver toujours ces liens que saint Thomas souligne entre le point de vue de la perfection, le point de vue de la bonté et le point de vue de la forme. Et ici, c'est particulièrement net. Donc, vous voyez, saint Thomas nous dit qu'il y a deux ordres possibles. Je peux analyser à partir de la causalité et je peux analyser à partir du causato, c'est-à-dire de l'effet. Il y a l'ordre inverse. Dans les faits, je regarde la forme. Ce qui est, la structure de ce qui est, sa forme. Deuxièmement, je vois comment cette forme a une virtus active. Et troisièmement, je vois comment cette virtus active ne peut être mise en exercice que par le point de vue de la fin. Par le point de vue du monde. Vous avez les deux aspects opposés. Les deux analyses différentes. Une analyse qui se fait in causando, dans le fait de la causalité. Et une analyse qui se fait à partir de l'effet. On dirait aujourd'hui une analyse dynamique et une analyse statique. Si vous voulez, c'est exactement ça. Non, dire que saint Thomas, c'est du statique, il comprenait très bien ce que c'était que le dynamique. Le dynamique, c'est à partir de la causalité. La causalité est toujours, hein. Le dynamisme vient de la causalité.
Quand vous ne faites rien, il n'y a rien de dynamique. Quand vous faites quelque chose, c'est dynamique. Bon, alors, c'est toujours la causalité. La causalité implique ce dynamisme. Et tout le dynamisme provient de la fin. Ce n'est pas l'efficience, c'est la fin. Là, vous voyez bien, pour Saint-Thomas, la fin commande toute l'efficience. Alors, on aura ensuite, avec Don Scott et Occam, en disant, vous voyez bien, l'action d'efficience est la seule qui produit la forme. Donc, la motion du bien sur la causalité efficiente n'est que métaphorique. Et vous avez l'expression, alors que dans la grande scolastique, même Jean de Saint-Thomas, on dira que la causalité finale, à la différence de la causalité efficiente, est une causalité métaphorique. Et à partir de ce moment-là, vous excluez la finalité de l'analyse réelle. C'est métaphorique. C'est symbolique. Ce qui dit métaphorique dit symbolique. Mais glissement. Tandis que dans Saint-Thomas, pas du tout. C'est très sérieux. La fin repose sur le bien. Rien n'est aussi réel que le bien. Puisque c'est l'acte d'être. Donc, il n'y a rien de plus réel que la causalité finale. Et c'est la causalité finale qui meut l'efficience dans notre vie. On dirait psychologiquement aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas motivés. Donc quand ils ne sont pas motivés, ils ne fichent rien. Ils se tournent les pouces. Ils ne sont pas motivés. Il faut les motiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut leur donner, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une finalité. C'est la finalité qui nous meut. Et c'est dans la mesure même où nous sommes finalisés que nous mouvons. Alors que, de fait, quand vous parlez de motivation, vous oubliez la finalité. Vous voyez, c'est intéressant, c'est ça les glissements des mots. Ça, c'est le glissement de la psychologie. Motiver, c'est croire qu'on peut agir directement sur l'efficience. Non. On agit sur l'efficience en fonction de la fin. C'est la fin qui me motive réellement. C'est la fin qui me permet d'être dynamique. C'est l'efficience qui est commandée par la fin. Et la fin, c'est le bien. Ça, c'est capital de comprendre ça, vous voyez, dans notre vie. Hein, parce qu'il suffit de faire la petite analyse pour nous. Et faire la petite analyse pour nous, c'est bien. Alors, la question serait intéressante de voir quelle différence y a-t-il entre motiver quelqu'un et finaliser quelqu'un. Au point de vue du langage, au point de vue de la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Motiver et finaliser. Ce qui est sûr, hein, ici, pour la doctrine de Saint-Thomas, ce qui est sûr, c'est que la fin n'apparaît que à partir du bien. C'est la fin qui donne, c'est la fin qui repose sur le bien et qui attire le point de vue de l'efficience. La causalité efficiente n'est en acte que par la fin. Et donc l'exercice de la causalité efficiente provient de la fin. La virtus activa n'est en exercice que par la fin. Alors ne disons pas que c'est métaphorique. C'est ce qu'il y a de plus réel. La finalité, c'est ce qu'il y a de plus réel. C'est le réel du réel, puisque c'est le bien. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bien, on n'est pas arrivé à l'acte. Je dis ça, c'est parce que nous sommes tous plus ou moins sous l'influence de Don Scott et d'Occam, et donc fatalement nous avons la tendance et la tentation de considérer la causalité finale comme métaphorique. On voit très bien comment Jean de Saint-Thomas peut dire métaphorique. Métaphorique, ça veut dire pas physique. Attention, hein, elle n'est pas physique parce qu'elle est plus profonde que le physique. Elle relève sur quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, voyons tout de suite les objections. Il semblerait plus indiqué de rattacher le bien à quelque autre genre de cause. Ainsi, Denis le rattache à la cause formelle quand il dit que le bien est loué en tant que beauté. Alors, ici, nous allons avoir quelque chose de très intéressant, c'est de voir la causalité du beau et la causalité du bien. Le rapprochement que Denis établit entre le bien et la forme, sous les auspices du beau. Ça, c'est les auspices du beau, c'est pas de saint Thomas. Dicendum de pulchrum et bonum in subjecto quidem sunt idem, quia secundum sunt idem, quia super eamdem rem fundantur, chilichet super formam, et propter hoc bonum laudatur ut pulchrum. Alors, le rapprochement, donc ça c'est la petite glose marginale, le rapprochement que Denis établit entre le bien et la forme, sous les auspices du beau, est fort exact, car le beau et le bien, considérés dans leur sujet, donc saint Thomas prend tout simplement à partir de là, hein, le bien et le beau, car le beau et le bien, considérés dans leur sujet, coïncident et sont fondés tous deux sur la forme. Le fondement du beau et du bien, c'est la forme. De là vient que le bien est loué comme beau, qu'il l'est en effet. Mais ces deux notions, ces deux raisons, ces deux rationes, n'en diffèrent pas moins l'une de l'autre. Le bien concerne la faculté du désir, puisque le bien est ce que tout être est, ce que tout être désire, et la raison de fin, car le désir est une sorte d'élan vers la fin. Le beau, lui, concerne la faculté de connaissance, puisqu'il est déclaré beau, puisqu'est déclaré beau ce dont la vue nous plaît. Alors ça, il faut aussi le souligner, parce que c'est une de ces aspects de saint Thomas et qui est très important à bien comprendre. Pulcra sunt dicuntur qui visa placent. Il faut comprendre ça. Sont beaux ce qui plaît à la vue. Sont beaux ce qui plaît à la vue. Le beau, lui, concerne la faculté de connaissance, puisque est déclaré beau ce dont la vue nous plaît. Aussi, le beau consiste-t-il dans une juste proportion des choses, nos sens se plaisant aux choses harmonieuses et proportionnées, comme s'ils s'y retrouvaient eux-mêmes, eux qui sont harmonie interne. Il en est de même de toute vertu cognoscitive. Comme donc la connaissance se fait par assimilation, et comme l'assimilation est le fait d'une forme qui se communique, le beau, à proprement parler, se rapporte à la cause formelle. Pulchrum proprie pertinet ad rationem causae formalis. Et ça, c'est un petit, c'est une réponse extrêmement intéressante. Saint Thomas face à Denis qui précise, donc face à tout le néoplatonisme. Comment saint Thomas reconnaît qu'il y a quelque chose de vrai dans le néoplatonisme, et comment saint Thomas montre que dans le néoplatonisme, il y a une distinction qui n'a pas été faite. Alors, reprenons ça rapidement, parce que c'est très important. Et c'est très important pour toute l'esthétique. Vous voyez, c'est la différence entre l'esthétique et le point de vue propre de l'éthique. Comment on ne peut pas faire une éthique esthétique? Et comment ce serait bien tentant de faire une théologie esthétique et artistique? Et on ne peut pas faire une théologie esthétique et artistique. Ce serait bien tentant, ce serait merveilleux de voir ça. Mais non, c'est autre chose. Chaque fois que Dieu a dit, a créé quelque chose, il a dit « Valde bonum ». C'est bon. Il n'a pas dit que c'était beau. Il fallait attendre un certain temps pour qu'on puisse dire que le Fils de l'homme est beau. Il fallait attendre. C'est ce qu'on a vu hier. Il faut attendre. La première chose qu'on a vu que c'était beau, c'était les fruits de l'arbre. On n'a pas dit que petit Cain, quand il était né, oh, comme il est beau. Non. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça du petit Abel non plus. Non. On a vu qu'au contraire, l'un et l'autre offraient leur présent à Dieu. Donc ce qui qualifiait l'homme, ce n'était pas la beauté en premier lieu. C'était l'acte religieux. Et dans une anthropologie, c'est très très net. Ça. Et il y a des anthropologies esthétiques. Hein. C'est évident, mais le beau dessus tout, c'est ça qui doit dominer tout. Alors c'est intéressant, c'est très intéressant cet ad primum. Hein. Il faut le regarder très près. Saint Thomas commence à montrer comment bien et beau. Ont quelque chose de commun. Tout bien implique la forme, tout beau implique la forme. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont idem, ils sont identiques dans la réalité. Quelquefois, pas toujours. Hein. Ils sont identiques in subjecto. In subjecto. Puiden sont idem. In subjecto. Parce qu'ils sont fondés sur la même réalité, c'est-à-dire la forme. Fondés sur la même race. Donc Saint Thomas montre là le caractère ontologique du beau, comme on dirait aujourd'hui. Le caractère ontologique du beau. Le caractère ontologique du beau, c'est que il se fonde sur la même race que le bien, c'est-à-dire la forme. Je crois que c'est ça qui est important. Mais cependant, selon leur raison, ils diffèrent. Ils ont des rationnesses différentes. Ils ont des rationnesses différentes. Alors, comment expliquer ces rationnesses différentes ? Bon, nous savons très bien que la raison propre du bien, c'est justement l'appétibilité. Le bien, c'est ce qu'on désire. Et le beau, ce n'est pas l'appétibilité qui caractérise le beau, c'est quoi ? Le beau, ce n'est plus l'appétibilité. L'appétibilité du bien à la raison de fin. Tandis que le beau implique le point de vue de la connaissance. J'allais dire que le beau est beaucoup plus intellectuel que le bien. C'est ça qu'on a toujours une tentation dans un monde comme le nôtre, qui est avant tout un monde de l'intelligence, beaucoup plus qu'un monde de l'amour, de s'orienter vers le beau. Et d'avoir une esthétique des valeurs, une éthique des valeurs, une éthique du beau. Donc le beau regarde avant tout la connaissance. Avant tout la connaissance. C'est la première chose que le beau regarde. Et c'est pour ça qu'on dira que le beau, c'est ce qui plaît étant vu. Vu, il plaît. Ah, c'est très curieux. Donc, le beau va impliquer un aspect subjectif. Cet aspect subjectif de la délectation. Ça plaît. Plaît. Étant vu, ça plaît. Donc, on reste, on demeure dans la connaissance qu'on a du beau. On aime d'y demeurer. Et c'est ce qui va caractériser le point de vue du beau. Quelque chose de beau, vous vous y arrêtez. Et dans la mesure où vous y arrêtez, ça prouve que c'est beau. Ça vous a attiré, on dira. Alors, on dirait l'appétibilité, mais ce n'est pas l'appétibilité, c'est dans la connaissance. Cette espèce de délectation, ce qui étant vu couplé. Quod visu placet. Ça, faut bien comprendre ça. Quod visu placet. Ce qui est, c'est très fort, tu vois, cette chose-là. Parce que c'est l'aspect subjectif. Vous voyez, on a les deux aspects du beau. C'est ça qui est intéressant ici. C'est un mode dans l'aspect ontologique et l'aspect subjectif. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Pourquoi le beau plaît ? Le beau plaît parce qu'il va impliquer une espèce d'harmonie qu'on va retrouver entre l'objet beau que nous voyons et nous-mêmes. Et c'est ce que saint Thomas explique quand il dit ça. « Unde pulchrum in debita proportionne consistit ». Donc le beau implique l'harmonie. Une harmonie dans la forme, une harmonie dans le sujet. Il y aura une espèce de connaturalité qui va exister entre le sujet connaissant et le beau vu. Et c'est cette connaturalité entre le sujet connaissant et le beau vu qui va impliquer cette délectation, ce repos, cette complicité. Subitement, il y a quelque chose qui fait c'est merveilleux. C'est tout à fait différent lorsqu'il s'agit du bien. Le bien vous attire, il vous déloge. Puisque le bien suscite l'amour et l'amour est extatique. Tandis que le beau n'est pas du tout extatique. Le beau est immanent. C'est au plus intime de nous-mêmes, de moi-même, dans ma connaissance, que je découvre cela. Alors, il y a une harmonie dans la forme et une harmonie dans le sujet connaissant. Cette harmonie dans le sujet connaissant, c'est quoi ? C'est l'harmonie entre le point de vue de l'intelligence et le point de vue des sensations, et le point de vue de l'imagination. Il y a subitement une harmonie entre les trois. Et cette harmonie entre les trois va correspondre à l'harmonie de la forme, ou plus exactement, l'harmonie de la forme va actuer cette harmonie de la sensibilité, de l'imagination et de l'intelligence. Et c'est en ce sens-là qu'on pourra se reposer. Unde pulchrum in debita proportionne constitit, quia sensus delectatur in rebus debita proportionatis, sicut in sibi sensibilibus. In sibi similis, similibus, nam et sensus, ratio quidem est, et omnis virtus cognoscitiva, quia cognitio fit per assimilationem, similitudo autem respicit forma. Vous voyez comme c'est curieux comme manière de voir. Saint Thomas va dire, et saint Thomas insiste avant tout sur la sensation. Je crois que je peux ajouter ça. Il y a une double harmonie. Et saint Thomas va voir l'harmonie de la sensation. Toute sensation est une harmonie. Et quand il s'agit de la plénitude de la sensation, quand je suis en présence de quelque chose de bon, il y a une harmonie non seulement au niveau sensible, mais une harmonie au niveau imaginatif et une harmonie au niveau de l'intelligence. Alors vous avez une triple harmonie qui fait ce repos dans la connaissance esthétique. Alors ce qui est important ici, vous voyez, c'est de comprendre que le bien est dans l'ordre de l'appétibilité, dans l'ordre affectif, dans l'ordre de la volonté. Tandis qu'au contraire, le beau est dans l'ordre de la connaissance. C'est pour ça que je peux dire que le bien attire et que le beau séduit. Il y a une séduction dans le beau qui actualise l'harmonie profonde de ma sensibilité, de mon imagination et de mon intelligence. Voyons tout de suite la seconde objection. Le même Denis inviterait à attribuer au bien une causalité efficiente quand il le dit porter à se répandre. Oui, ça, c'est la fameuse explication, vous savez bien. Le bonhomme diffusivum sui. Quand on dit que le bien aime à se répandre, hein, c'est une, Bonum dicitur diffusivum sui esse. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir et comprendre. Le bien est diffusif de soi. Et au modo, quo finis dicitur movere. C'est extrêmement curieux, et ça c'est très difficile à comprendre. Le bien est diffusif de soi, à la manière de, qu'on dit que la femme. Ça c'est une explication de saint Thomas, aristotélicienne, d'un axiome platonicien, ou néoplatonicien. Alors ça c'est la rencontre des deux, et c'est très amusant. Quand vous essayez de regarder dans la tradition néo-platonicienne ou platonicienne, on définit le bien diffusif de soi. Le fromage qui coule. Oui, c'est ça. Le camembert. Le bien est diffusif de soi. Il y avait toujours cette image merveilleuse du bien qui est diffusif de soi. Puis ça gagne du terrain. C'est évident. Alors, le bien... Il est diffusif de soi, sui, c'est lui-même, il coule. L'émanation, le bien est diffusif de toi. Plotin dira, ce qui est parfait en tant qu'il est parfait, nécessairement est source d'autre chose. C'est comme ça qu'il explique sa trinité. Elle est nécessaire. Le parfait, nécessairement, ça coule. Donc, émanation. Diffusive de soi. Vous voyez que cette émanation est tout à fait du côté de la cause efficiente. C'est bien évident. C'est la procession néoplatonicienne, c'est du côté de la cause efficiente, c'est l'émanation. Le parfait, il est source d'un autre. Il est principe d'un autre. Qu'est-ce que dit saint Thomas ? Hein, c'est une interprétation tout à fait divine, selon l'Esprit Saint. Saint Thomas va encore, c'est vraiment une herméneutique à la manière de saint Thomas. Ça, c'est extraordinaire. C'est un lieu qu'il faut garder ça, parce que quand on dit que saint Thomas est néoplatonicien, fourrez ça dans les pattes de celui-là. Il ne pourra plus rien dire. Quand vous dites, n'est-ce pas ? Dicidur, bonum dicidur diffusivum sui esse. Tout le monde est d'accord que ça, c'est un principe qui provient de tous les néo-catholiques. C'est très beau, du reste. Hein ? Le bien est diffusif de soi. Bon, c'est néo-catholicien. Cherchez dans tout Aristote, vous ne verrez jamais ça. Et dans les... C'est tandis que dans Plotin, vous voyez, le parfait est source nécessaire de l'émanation. Le parfait comme parfait est nécessairement source, donc diffusif. Il n'est pas parfait, on a vu le lien entre le parfait. Que dit saint Thomas ? Bonum dicitur diffusivum sui esse, et au modo, à la manière par laquelle la fin est d'y mouvoir. Donc à la place de regarder la cause efficiente, saint Thomas regarde la fin. Finis. Considéré du côté de la fin. Le bien est diffusif de soi à la manière de la fin. Pourquoi ? Parce que la fin me la cause efficiente. Si la fin me la cause efficiente, le bien qui est fin me la cause efficiente. Alors là, vous êtes en plein aristotélisme. Très très joli cette rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il s'agit de comprendre. Hein, pas ça. C'est très intéressant de regarder les deux courants. C'est très intéressant de voir ces deux courants et cette rencontre des deux courants, le flux et le reflux. N'est-ce pas ? C'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle différence y a-t-il entre les deux ? C'est de regarder que le bien ne me pas nécessairement. Il meut à la manière de la fin qui actue la cause efficiente. Donc il n'y a plus un lien de nécessité. Tandis que du côté de la cause, tandis que du côté du néoplatonisme, il y a un lien de nécessité. C'est qu'on voit comment le bien est source nécessaire, émanation nécessaire. Du côté de la finalité, je ne dirais jamais que c'est nécessaire, puisque la fin attire. Donc ce n'est pas nécessaire. Et puis, ça montre l'immobilité de la fin. Le bien agit à la manière d'une fin en attirant. Et le bien n'agit pas du tout à la manière de la cause efficiente en courant après. Il y a deux manières d'agir. Hein. Vous courez après le gibier. Et plus vous l'approchez, plus il court vite. Et donc, vous n'arrivez jamais à l'atteindre. Mais vous, causalité efficiente. Ou au contraire, vous êtes cause finale, vous attirez. Un miroir lumineux qui attire, le gibier tombe dedans. C'est cause finale. C'est tout à fait deux choses tout à fait différentes. D'un côté, on garde le contact constant par le point de vue de la causalité efficiente. On est en contact constant avec le feu, ce qui est diffusif de soi. De l'autre côté, on reste immobile, la fin, et on attire. La causalité efficiente.